La recluse, cinquième partie. Chapitre 13. Quand Monsieur de Beaufort se fut retiré, Edmé quitta sa cellule et descendit au jardin, où l'attendaient Mariette et sœur Rosalie. Mariette, qui brûlait d'impatience, la prit aussitôt par le bras, l'entraîna dans un coin de l'enclos et l'accabla de questions. Edmé, encore toute préoccupée, ne fit que des réponses évasives. Plusieurs choses l'avaient frappée pendant l'entretien qu'elle avait eu avec son père, mais un fait surtout dominait ses impressions. C'était l'espèce de terreur qu'elle avait surprise sur son front quand sœur Rosalie avait passé. Son père ne s'était pas expliqué à ce sujet, mais sa curiosité était violemment éveillée, et elle avait hâte de savoir. Aussi, elle s'échappa, dès qu'elle le put, des mains de Mariette, et revint vers sœur Rosalie, qui se promenait dans une allée solitaire. Celle-ci l'accueillit de son plus invitant sourire. « Vous avez vu Monsieur de Beaufort ?» dit-elle d'un ton onctueux et doux. « Et vous voilà bien heureuse. »« C'est toujours une grande joie pour moi quand je vois mon père, » répondit Edmé. « Il est si bon et il m'aime tant. » « Qui ne vous aimerait ?» interrompit sœur Rosalie, presque malgré elle. « Mon père, je vous l'ai dit quelquefois, a une véritable adoration pour son Edmé, et je ne sais de mon côté ce que je ne ferai pas pour lui épargner un chagrin. » « Vous avez raison, mon enfant, mais Monsieur de Beaufort est riche, honoré, il a une femme charmante, deux enfants adorables. Quel chagrin pourrait l'atteindre ?» « C'est vrai, et c'est ce que je me disais encore tout à l'heure pour me rassurer. »« Vous rassurer ? À quel propos ? » ?»« Je ne sais pas, mais ce matin, j'en suis certaine, mon père avait quelque chose. Je ne l'ai jamais vu si triste. Peut-être, après tout, ai-je tort de m'alarmer ainsi, et cela vient sans doute de ce qu'il m'a annoncé qu'il allait partir. »« Ah ? Monsieur de Beaufort quitte Paris ? » ?»« Ce soir. » »« Et où va-t-il ? » ?»« À Londres. » Sœur Rosalie eut un geste de douce compassion. « Et c'est là ce qui vous inquiète? Vous êtes trop impressionnable aussi, et il faut vous raisonner. D'ailleurs, ne vous reste-t-il pas votre mère ?»« Oui, oui, ma mère, » répéta Edmé d'un ton de rêverie vague. Et sans avoir conscience de ce qu'elle disait, sans se douter qu'elle pensait tout haut, elle ajouta, comme dans une explosion de tendresse, « Oh, comme je l'aurais aimée, si elle m'avait elle-même aimée comme mon père !» Sœur Rosalie ne releva pas le propos. Elle était plus émue qu'elle n'eût voulu le paraître. Une pensée obstinée pesait sur son esprit. Elle avait sur les lèvres mille questions qu'elle retenait avec peine. « Cher enfant, lui dit-elle enfin, vous avez tort de vous abandonner ainsi. Je veux vous voir plus forte. » « D'ailleurs, votre père ne s'absente pas souvent, il reviendra bientôt, et vous oublierez ces petits chagrins auxquels vous vous étonnerez vous-même d'avoir donné tant d'importance. »« Vous croyez ?» fit Edmé en essayant de sourire. « Vous aurez d'autres amitiés et d'autres attachements qui vous seront une compensation plus douce que vous ne pouvez le supposer. »« Si c'était vrai !» !»« Je vous en réponds, voyons. » Vous n'avez pas toujours été aussi malheureuse que vous croyez l'être en ce moment. Rappelez-vous votre enfance. Reculez le plus que vous pourrez dans vos souvenirs, à cette époque éloignée quand vous étiez toute petite. Votre mère vous aimait d'un égal amour, votre sœur et vous. Elle ne vous distinguait pas dans sa tendresse. Vous aviez une même part toutes deux dans ses caresses. Moi, je connais aussi le cœur des mères. Il peut s'égarer peut-être quelquefois et être incité à faire un choix entre deux belles jeunes filles devenues en grandissant de caractères différents. Mais devant deux enfants charmants et doux qui sourient et bégaient, appelant les baisers de leurs jolies lèvres roses, est-ce qu'il y a à choisir? Il n'y a qu'à aimer de toutes les expansions divines de son âme maternelle. Souvenez-vous, et je suis bien certaine que vous me direz que c'est ainsi que vous a aimé Madame de Beaufort. » Pendant que sœur Rosalie parlait, Edmé écoutait d'une oreille avide et comme suspendue à ses lèvres. Quelque chose d'anormal se passait en elle. On eût dit qu'elle avait naguère un voile sur les yeux, et que ce voile venait de se déchirer. Sa poitrine se soulevait avec force, ses mains pressaient son front moite, elle regardait sœur Rosalie avec une sorte d'effarement. « Qu'avez-vous ? » fit celle-ci en l'observant avec une poignante attention. « C'est étrange !» balbutia Edmé. « Quoi donc ? Ce que vous me dites là, ce souvenir que vous venez d'évoquer. Eh bien, c'est la première fois que j'y pense. J'avais oublié, et jamais je n'avais cherché à me rappeler. Et maintenant, je me souviens. Vous voyez ? Oui, c'est bien cela. J'étais toute petite. Avais-je 2 ans ? Je ne sais plus. Mais mon père était là, et déjà il m'aimait, comme toujours, depuis. Vous étiez en France. Attendez, mon Dieu, c'est donc un rêve que j'ai fait ? Non, non, ne vous arrêtez pas ! Insista Fanny Stevenson, la gorge serrée, les doigts crispés sur son rosaire. Ce n'est pas un rêve, rappelez-vous encore. Mais plus loin, avant votre père, ne voyez-vous pas là-bas, dans la brume de vos souvenirs d'enfant, un pays à la végétation luxuriante, avec la mer infinie pour horizon ? Et plus près, tout près, un grand fleuve large et profond, sur la berge duquel vous alliez tremper vos petits pieds blancs. Edmé se rejeta brusquement en arrière et regarda sœur Rosalie avec une véritable épouvante. « D'où savez-vous cela ? » interrogea-t-elle en frissonnant. « C'est vrai, n'est-ce pas ? Mais qui vous l'a dit ? Et sur cette berge où vous couriez déjà, vous n'étiez pas seule ? En effet, il y avait là une femme, jeune, qui suivait vos pas, attentive, caressante, vous parlant avec tout son cœur, vous dévorant de caresses, vous apprenant à prononcer les premiers mots que vous ne faisiez que bégayer. C'est cela ? C'est cela ? Fanny Stevenson ne pouvait plus se contenir à son tour. Vaincue par l'émotion, elle se voila le visage et fondit en sanglots. « Elle, je savais bien que c'était elle » murmura-t-elle, le cœur débordant de tendresse. « Ah, soyez bénie, Dieu juste et bon, qui me l'avait rendue !» Cependant, Edmé continuait de regarder sœur Rosalie sans comprendre ce qui se passait en elle, émue, frissonnante, n'osant l'interroger davantage. Fanny Stevenson ne voulut pas prolonger davantage cette dangereuse situation. Le moment n'était pas venu encore de révélation plus complète. Elle craignit de livrer son secret. Et, essuyant rapidement les larmes qui inondaient ses joues, elle se tourna vers la jeune fille, le visage presque calme. « Vous pleurez ?» fit Edmé au comble de la surprise. « Ce n'est rien !» répondit Fanny Stevenson en s'efforçant de sourire. « Seulement, ce que nous avons dit là tout à l'heure m'a rappelé un des plus tristes souvenirs de ma vie. « Vous avez bien souffert ?» « Oui, mon enfant, j'ai souffert et pleuré plus qu'aucune créature humaine. »« Vous, si bonne ? » ?»« Mais Dieu m'a prise en pitié. Désormais, tous mes chagrins vont finir. »« Vraiment ? » ?»« Je vous raconterai cela. Je vous dirai tout, plus tard, bientôt, car pour le moment, vos amis vous attendent et vous allez reprendre vos études. Mais ce soir, quand vous serez seule dans votre cellule, vous viendrez ? « Vous le voulez bien ? Ah, n'en doutez pas, car sans Mariette et vous !» Edmé n'acheva pas. Mariette était venue la reprendre en courant, et elle l'entraîna vers le couvent avec cette pétulance franche et gaie qui était sa plus irrésistible séduction. Sœur Rosalie les regarda un moment s'éloigner en se tenant par la main. Un sourire d'une ineffable tendresse releva sa lèvre, et posant ses 2 mains en croix sur sa poitrine, elle reprit le chemin de sa cellule. Il était 10 heures à peine. Elle y resta jusqu'à midi. C'était l'heure où Maxime et Gaston devaient se présenter au parloir, et elle ne doutait pas que Mariette et Edmé ne fussent exacts à l'innocent rendez-vous. Elle attendit l'heure sans trop d'impatience. Elle avait la tête et le cœur plein. Jamais elle ne s'était sentie si heureuse. Elle faisait 1000 projets d'avenir, tour à tour accueillis avec enthousiasme ou abandonnés à regret. Ce qu'elle voulait tenter, devait rencontrer bien des obstacles. Elle allait avoir à lutter contre Madame de Beaufort, contre le comte, et elle s'effrayait à la pensée des difficultés sans nombre que l'on ne manquerait pas d'accumuler sous ses pas. Mais que lui importait? Elle ne pouvait plus hésiter. Maintenant qu'elle avait retrouvé sa fille, son devoir était tracé, et son amour maternel la soutiendrait dans la lutte qu'elle allait engager. Sa fille, Edmée, elle la retrouvait plus belle, plus aimante qu'elle n'eût jamais osé l'espérer, et elle se disait qu'aucune puissance humaine ne pourrait plus la lui arracher. Au surplus, depuis quelques jours, elle était convaincue qu'un grand trouble régnait dans la maison de la rue de la Chaussée-d'Antin. L'entrevue qui avait eu lieu entre Palmer et Gobson ne lui laissait aucun doute sur ce point. Le comte avait peur. Quelques machinations se tramaient de ce côté. Mais qu'avait-elle à redouter pour elle-même? Madame de Beaufort avait-elle été mise dans le secret des agissements de son mari? Savait-elle, surtout, que Fanny Stevenson était vivante et qu'elle pouvait menacer son propre bonheur? Pendant qu'elle pensait à toutes ces choses, l'heure s'écoulait, et à mesure que le moment approchait, elle se sentait prise d'une sorte d'agitation qui lui enlevait une partie de sa liberté d'esprit. Midi allait sonner, elle quitta sa cellule et descendit au parloir. Maxime et Gaston ne devaient pas tarder d'arriver. En effet, au premier coup, elle entendit des pas d'homme sur les marches de l'escalier, et peu après, elle vit entrer les deux amoureux. Une joie sereine inonda son cœur quand elle songea à l'amour que Gaston portait à sa fille. Jamais elle n'eût rêvé de remettre le bonheur d'Edmé à un homme plus digne. Les deux jeunes gens s'inclinèrent, et elle rendit le salut sans quitter le livre qu'elle avait sous les yeux et qu'elle faisait semblant de lire. Puis, 5 minutes se passèrent. Maxime, qui n'était pas à la patience même, allait et venait à travers le parloir, jetant de seconde en seconde un regard sur le palier de l'étage, ou s'arrêtant pour écouter si personne ne venait. Mais aucun bruit ne se faisait entendre. À peine percevait-on de temps à autre, au milieu du pieux silence de la sainte demeure, le pas furtif de quelques sœurs qui passaient au rez-de-chaussée, se rendant à la chapelle, ou encore le mystérieux murmure de deux voix qui se parlaient à voix basse. Maxime commença à s'étonner du retard que Mariette mettait à venir le trouver, et il se tourna vers Gaston. « Voilà qui est singulier, » dit-il. « Aurait-on par hasard oublié de prévenir ma cousine ?»«
Ce n'est pas probable, » répondit Gaston.
« Il faut croire plutôt que Mademoiselle Mariette aura été retenue pour une cause imprévue, » et elle nous expliquera elle-même.
« La voici !»
interrompit vivement le jeune lieutenant de vaisseau. Et il fit quelques pas à la rencontre de la jolie enfant qui arrivait en courant. Mais elle n'eut pas plus tôt passé le seuil du parloir que Maxime et Gaston échangèrent le même regard inquiet, pendant que de son côté, sœur Rosalie se levait vivement de sa chaise. Mariette était seule. Et elle portait sur le visage les signes manifestes d'une vive émotion. Chapitre 14. Maxime, à qui sa qualité de cousin permettait certaines privautés que Mariette n'avait aucune envie de trouver mauvaises, Maxime prit la jolie enfant dans ses bras et déposa un pur baiser sur son front.
« Eh mon Dieu, qu'avez-vous ? » dit-il en même temps. « Vous êtes tout émue et tremblante. »
« Mademoiselle Edmé ne vous accompagne pas ?»
interrogea à son tour Gaston de Pradel. Mariette poussa un profond soupir.
« Non, monsieur Gaston, » répondit-elle avec effort. « Edmé ne viendra pas, et c'est à cause d'elle que vous me voyez dans cet état. »«
Qu'est-il arrivé ?» fit Maxime.
« Ah, je n'en sais rien, mais tout de même, c'est terrible. »«
Mais quoi donc ?»«
Je vais vous dire, vous savez... En tout cas, je vous l'apprends, qu'Edmé est ma meilleure amie, pour mieux parler, ma seule amie. Nous ne nous quittons jamais, nous bavardons ou nous rêvons ensemble. Et comme elle est beaucoup plus savante que moi, je copie souvent mes devoirs sur les siens. Nous n'avons pas de secrets l'une pour l'autre, nous disons tout ce que nous pensons. Et quand Edmé a un chagrin, si petit qu'il soit, elle essaierait en vain de le dissimuler, car je le devinerai tout de suite. Eh bien, aujourd'hui, ça n'a pas manqué. Monsieur de Beaufort était venu la voir ce matin, de bonne heure. Il lui a annoncé qu'il allait partir, et quand je l'ai revu, son pauvre cœur n'en pouvait plus.
« C'est pour cette raison qu'elle n'est pas venue ?» demanda encore Gaston.
« Ce n'est pas pour cette raison. »«
Eh, quelle autre ?»«
Vous allez voir. Nous étions donc rentrés à l'étude, sans qu'elle eût pu me dire ce qui la rendait plus mélancolique encore qu'à l'ordinaire, et nous chuchotions. Elle résistait à mes sollicitations, moi essayant de lui arracher la cause de son chagrin, quand tout à coup, un grand silence se fait. Toutes les pensionnaires se lèvent, et nous voyons entrer Madame la supérieure.
« Diable !» fit Maxime sur un ton enjoué. « Cela devenait grave. »«
Très grave, monsieur mon cousin, » repartit Mariette, « car Madame la supérieure ne se montre que rarement, dans les grandes occasions, et il fallait une cause bien sérieuse pour qu'elle dérogeât ainsi à ses habitudes. »«
Que voulait-elle ?»«
Madame la supérieure dit, en entrant, quelques mots à voix basse, à la sœur qui était allée la recevoir. » Et moi qui observais celle-ci, je vis qu'en réponse à la question qui lui était adressée, elle désignait du geste la place où se trouvait Edmé.
Et alors ?
Alors Madame la supérieure s'avança de son air le plus majestueux et vint droit à Mademoiselle de Beaufort.
Et que lui dit-elle ?
Oh, ce ne fut pas long. Mademoiselle, dit-elle, je viens de voir Madame de Beaufort et j'ai eu avec elle une longue conversation à votre sujet. Elle a sur vous des projets dont elle m'a fait part, et j'espère que vous voudrez bien vous y soumettre. Veuillez donc, je vous prie, prendre vos cahiers et vos livres. Vous viendrez avec moi, nous aurons à causer. Et je ne doute pas que vous ne vous montriez obéissante, comme je me plais à reconnaître que vous l'avez toujours été.
Edmé était blanche comme un suaire, ses lèvres tremblaient, elle n'eut pas la force de répondre. Et se contenta de s'incliner en me jetant un regard désespéré. Il s'en fallut de bien peu que je n'éclatasse moi-même en sanglots. Et quand je la vis disparaître, suivant Madame la supérieure, mon cœur se fondit et je retombai sur mon banc, incapable d'avoir une idée.
« Et c'est tout ce que vous savez ?» interrogea Gaston d'une voix altérée.
« C'est tout, » répondit Mariette.
« Pauvre enfant !»
fit à son tour Maxime en tapotant les petites mains de la jolie enfant. « Cela vous a bouleversé. Il y a bien de quoi, je suppose. »
« Qui sait, vous vous effrayez peut-être à tort. Quel danger pouvez-vous prévoir ? Madame de Beaufort vient chercher sa fille. Elle veut probablement la reprendre près d'elle, au moment où son mari s'éloigne. Il n'y a rien là que de très légitime et de naturel. »
« C'est possible, mais tant que je ne saurai pas ce qu'Edmé est devenu, je resterai avec mes appréhensions. »
Machinalement, après cet incident, Maxime entraîna Mariette dans un coin du parloir. Et aussitôt, ils s'engagèrent dans une conversation dont sœur Rosalie ne pouvait rien entendre. Mais Miss Fanny Stevenson avait bien d'autres pensées en tête. 20 fois, pendant le court récit de Mariette, elle s'était levée à demi, l'œil plein d'effluves, la poitrine haletante, prête à se précipiter vers la jeune fille, à laquelle elle eût voulu adresser 1000 questions qui se pressaient sur ses lèvres. Quand Mariette eut fini, elle retomba, accablée sur sa chaise, et par un geste saccadé et violent, elle ramena son voile sur ses yeux pour cacher les larmes qui baignaient son visage. Gaston, qui était non moins ému qu'elle, s'approcha à pas discrets et se pencha doucement.
« Miss Fanny !» dit-il à voix basse comme un souffle.
Miss Fanny se dressa, farouche, et lui prit la main qu'elle serra à la briser.
« Vous avez entendu, n'est-ce pas ? »
répondit-elle d'un accent mal contenu.
« Que craignez-vous ? »
« Tout ! Ils sont capables de tout ! Mais qu'ils prennent garde ! Malheur à eux s'ils tentent de toucher à cet enfant !»«
Croyez-vous qu'ils en aient la pensée ?»
Fanny Stevenson eut un ricanement qui sonna comme un rire d'insensé.
« C'est elle, je n'en doute pas, c'est cette femme » répondit-elle. Elle a éloigné son mari, dont elle redoute la faiblesse, pour rester seule maîtresse et libre d'agir à sa guise. Mais elle a compté sans moi. Elle ignore ce que je suis, ce que je peux, et ne sait pas ce dont peut devenir capable une mère qu'on a privée pendant 17 années de la vie et des caresses de son enfant.
Ne vous laissez pas aller à cette colère aveugle.
Miss Fanny jeta à Gaston un regard dont l'éclat d'acier pénétra jusqu'au plus profond de son être.
« Vous ne l'aimez donc pas, » dit-elle, « vous qui me parlez ainsi, et qui pouvez rester calme en présence de ce qui se prépare. »
« Mais à quoi bon récriminer ? » ajouta-t-elle aussitôt.
« Il faut agir. Vous m'avez promis votre concours. J'espère que vous ne songez pas à me le refuser. »«
Ah, oh, sur ma vie !»«
C'est bien.
Que faut-il faire ?»«
Rien en ce moment. Avant de prendre une résolution, je veux savoir.
Cette supérieure, on doit lui avoir dit... Je me ferai à droite, insinuante. J'irai jusqu'au mensonge s'il le faut. » Mais je saurai, et quand vous viendrez chez François, je vous dirai ce que j'aurai appris.
Alors, nous nous verrons ce soir?
C'est cela.
À la même heure qu'hier?
À la même heure, oui. Partez maintenant. Voici le moment de la séparation. J'ai hâte de me retirer et d'aller me recueillir.
Cependant, Mariette et Maxime continuaient de causer. Et on entendait de temps en temps le rire charmant de la jolie enfant égayer le coin obscur du parloir où il s'était réfugié. Mais l'heure allait sonner et il n'avait plus que quelques minutes.
« Quand vous reverrai-je ? »
dit alors Mariette avec une petite moue ironique.
« La belle question !» repartit vivement Maxime. « Mais je vous reverrai demain, après-demain, tous les jours jusqu'à mon départ. »
« Cela ne vous ennuie donc pas de venir de si loin passer une heure avec une petite fille ?»«
Vous êtes méchante !»«
Moi ?»«
Oui, vous, cher enfant, car vous savez que je n'ai à Paris que vous, et vous voyez trop clair de vos beaux yeux pour ne pas avoir deviné tout le bonheur que j'éprouve à tenir, pendant une heure, vos deux jolies petites mains dans les miennes. »«
Maxime !»«
Cela vous déplaît que je vous parle ainsi ?»
Oh, ne le croyez pas.
Alors, vous m'aimez un peu?
Un peu? Non, mais de toute mon âme et de toute la reconnaissance que je vous ai vouée depuis le premier jour où je vous ai vue. Est-ce bien comme cela que je dois répondre?
Oui, oui, chère Mariette, dit Maxime d'un ton attendri. Je n'avais pas espéré davantage. Et pourtant, peut-être y aurait-il plus encore.
Vraiment?
« Si vous vouliez... »«
Eh, mais je ne demande pas mieux !» répondit l'enfant. « Il faudra me dire, et croyez que si je puis... »
En parlant de la sorte, elle avait un sourire plein de douce malice, et ses yeux se voilaient coquettement à demi. Maxime fut sur le point de s'oublier, et il allait la tirer contre sa poitrine par un emportement irréfléchi, quand la voix de sœur Rosalie vint le rappeler à la réalité de la situation.
« À demain, bien sûr !»
fit Mariette en accompagnant ces mots d'un regard qui eût été effronté s'il n'eût été naïf.
« Oui, oui, à demain !»
répondit Maxime, ébloui. Et prenant le bras de Gaston, il gagna rapidement la rue. Chapitre 15. Pendant les heures qui suivirent, ce qui se passa dans l'esprit de Fanny Stevenson serait bien difficile à raconter. La pauvre femme se sentait envahir par une terreur qui croissait d'instant en instant. Elle avait prétexté une indisposition et était rentrée précipitamment dans sa cellule. Là, elle compta les heures et les secondes, prêtant l'oreille à tous les bruits, les deux bras croisés sur sa poitrine pour en étouffer les battements qui l'assourdissaient, s'attendant à entendre le pas d'Edmé qu'elle connaissait si bien, priant Dieu surtout de faire cesser l'horrible martyre qu'elle éprouvait. Elle demeura ainsi jusqu'au soir. Quand le jour commença à baisser, elle voulut sortir. En entendant les voix jeunes et fraîches des pensionnaires qui prenaient leurs ébats dans l'enclos, elle pensa que peut-être Edmé se trouvait là avec ses compagnes. Elle descendit. En passant près de la cellule de Mademoiselle de Beaufort, elle poussa timidement la porte. « Qui sait ? Dieu avait peut-être fait un miracle sans qu'elle n'entendît rien.
La porte céda à la première pression et elle entra. Il n'y avait personne. La cellule était vide. Elle mordit ses lèvres avec un sanglot. « Mon Dieu, je ne la reverrai donc plus !» balbutia-t-elle, l'âme brisée. Et elle s'éloigna lentement, comme à regret. C'est ainsi qu'elle arriva dans le jardin. Du premier coup d'œil, elle s'assura qu'Edmé était absente. Cependant, à sa vue, Mariette, qui était aux aguets, s'empressa d'accourir à sa rencontre. « On nous a dit que vous étiez souffrante, ma sœur, » dit-elle d'une voix hésitante. « Je vois avec plaisir que vous allez mieux. »« Je vous remercie, mon enfant, » répondit sœur Rosalie. « Je me sens plus forte, en effet, et j'ai voulu prendre l'air. » Puis elle ajouta d'un ton en apparence indifférent. « Et votre amie, mademoiselle de Beaufort, n'est-elle pas près de vous ?» Mariette releva la tête d'un air triste. « Edmé, » répondit-elle, « on ne l'a plus revue depuis ce matin. » « Est-ce que sa mère serait venue la chercher ?»«
Je ne pense pas. »«
Qu'est-elle devenue ?»«
On se le demande. Cela nous a agitées toutes. Et il y a de quoi, n'est-ce pas ? Madame la supérieure était venue elle-même la prendre à l'étude. On l'a vue se rendre avec elle à la chapelle, puis de là à sa propre cellule. Mais après, plus rien. »
« C'est singulier. »«
Ah, si vous pouviez savoir !»«
Moi ?»
« Sans doute, si j'étais à votre place, vous êtes bien avec madame la supérieure, et je suis certaine qu'elle vous dirait... »
Miss Fanny se prit à réfléchir.
« Vous ne répondez pas ?»
insista Mariette. « C'était mon intention d'abord, mais depuis...
Et qui vous a fait changer d'avis ?»«
Je verrai, je me consulterai. »«
Et si vous apprenez quelque chose, vous me le direz, n'est-ce pas, ma sœur ? Songez donc, Edmé était ma seule amie. » Et vous ne sauriez croire quelle anxiété est la mienne depuis ce matin.
« Eh bien, je vous le promets, mon enfant, » répondit sœur Rosalie. « J'observerai encore, j'interrogerai, et si je parviens à connaître ce qu'est devenu Edmé, vous le saurez tout de suite. »«
Ah, vous êtes bonne, et je vous remercie. »
Sœur Rosalie n'en entendit pas davantage et s'empressa de regagner le couvent. Quelques heures plus tard, l'agitation qu'avait provoquée la disparition de mademoiselle de Beaufort était calmée, et le couvent de Sainte-Marthe dormait, enveloppé dans le plus profond silence. 9 heures venaient de sonner. La nuit était plus sombre que la veille. De lourds nuages chargés d'électricité couraient dans le ciel, poussés par un vent violent d'orage. La lune n'avait point paru, et l'on voyait à peine à se guider. En ce moment, la porte de l'enclos s'ouvrit, et 2 hommes entrèrent. C'étaient Palmer et Gaston de Pradel. Cette fois, François ne se trouvait pas là pour les recevoir. Mais Palmer commençait à connaître les êtres, et après avoir invité Gaston à régler sa marche sur la sienne, il prit les devants et se dirigea vers le pavillon, où ils rencontrèrent le jardinier. « Sœur Rosalie ?» demanda Palmer en serrant la main de son compagnon de bouteille.
« Sœur Rosalie n'est point encore arrivée, » répondit François.
« Mais elle ne peut tarder à venir, et s'il plaît au commandant d'entrer... »
Gaston, ayant remercié du geste, pénétra dans le pavillon. Palmer et François n'attendirent pas davantage, et un instant après, ils prenaient le chemin du caboulot, où ils allaient trouver quelque cordial aimé. Gaston, lui, s'était assis au fond de la chambre, et le front dans les mains... Le regard fixe, il cherchait à ramener l'ordre et le calme dans son esprit. Depuis le matin, il ne vivait plus. C'est surtout au moment où il était menacé de la perdre qu'il comprenait à quel point il aimait Edmé. 20 fois, il avait passé devant l'hôtel de la rue de la Chaussée-d'Antin, espérant y relever quelque indice qui le rassurerait sur le sort de la pauvre enfant. Une fois même, il avait sonné à la porte de l'hôtel, et avait demandé à voir madame de Beaufort. Mais le valet qui s'était présenté lui avait répondu que monsieur de Beaufort venait de partir pour Londres, que madame de Beaufort était souffrante, et finalement que l'on ne recevait personne. Gaston rentra chez lui en proie au plus violent désordre. Le seul espoir qui lui resta, c'était sœur Rosalie, et il fallait attendre 9 heures. Que fit-il et que devint-il jusque-là?
il n'eût pu le dire au juste. Seulement, comme 9 heures sonnait, il s'était trouvé à la porte de l'enclos et était entré. Sa première impression fut un cruel désappointement. Miss Fanny ne se trouvait pas au rendez-vous, mais on lui dit qu'elle allait venir, et cela le calma un peu. Il prit patience. Enfin, au bout d'une grande demi-heure, un bruit de pas précipité vint jusqu'à lui, et peu après, Miss Fanny Stevenson entrait dans la chambre. Gaston se leva vivement et courut à elle. « Enfin !» dit-il avec un soupir de soulagement. « Vous voilà !» Mais presque aussitôt, il recula de 2 pas, frappé de l'altération profonde de son visage et de la sombre expression de son regard. « Grand Dieu ! » s'écria-t-il. « Qu'avez-vous ? Que s'est-il passé ?» Fanny Stevenson s'était laissée tomber, accablée sur une chaise. Elle semblait absorbée dans une pensée unique. Sa poitrine se soulevait avec force. On eût dit qu'elle était étrangère à ce monde, perdue dans quelque rêve de folie. Pourtant, au bout d'un moment, elle secoua brusquement la tête pour chasser les pensées importunes qui menaçaient sa raison. Et elle releva lentement son regard sur Gaston. « Parlez ! Parlez ! » insista ce dernier. « D'où venez-vous ? »
« Je quitte la supérieure. Je voulais l'interroger. »«
Sur Edmé ?»«
Oui, sur Edmé. J'avais pris le premier prétexte venu, mais dès mes premières paroles, je compris qu'on l'avait mise en défiance contre moi. »«
Qui cela ?»
Vous le demandez.
« Madame de Beaufort, peut-être ?»«
Mais qui donc ? Ah, je l'ai deviné tout de suite, et on ne me l'a pas caché, d'ailleurs. Madame de Beaufort n'a pas tout dit, cependant. » Elle ne s'est pas livrée tout entière, et elle ne s'est plainte que d'une chose, c'est que je m'étais emparée de l'esprit de sa fille.
Vous ?
Sa fille, comprenez-vous ? Elle ose donner ce nom à Edmé.
Mais elle ignore sans doute.
Fanny Stevenson l'interrompit par un ricanement.
Elle sait tout, vous dis-je, répliqua-t-elle. Le comte est venu ce matin au couvent. En sortant, je l'ai croisé dans le couloir. « Et à l'effroi que j'ai surpris sur ses traits, je suis sûre qu'il m'a reconnue. »
« Ainsi, Edmé a quitté le couvent ?»«
Les misérables !»«
On vous l'a dit ?»«
Mais je ne la verrai plus !»«
Mais elle est retournée rue de la Chaussée-d'Antin, et si vous ne pouvez l'y aller voir, moi, du moins... »
Fanny Stevenson oublia un moment son regard attendri sur le jeune commandant.
« Vous êtes jeune, vous, monsieur Gaston !»
dit-elle d'un ton mélancolique et doux.
« Vous avez pris votre chemin sur les hauteurs de la vie. Vous ignorez le monde. Et, sûr de votre loyauté et de votre honneur, vous avez foi en l'honneur et en la loyauté des autres. Quelle déception cruelle vous attendent !»«
Cependant,
vous croyez, n'est-ce pas, qu'à l'heure où je vous parle, Edmé est rentré chez sa mère, et que l'on a eu d'autres pensées en l'éloignant de Sainte-Marthe que de la soustraire à l'empire que j'exerçais sur son esprit.
Eh bien ?
Eh bien, rendez-vous demain, rue de la Chaussée-d'Antin. Demandez mademoiselle de Beaufort, et vous verrez quelle réponse vous sera faite.
Mais que supposez-vous donc ? Que peut-on tenter contre la pauvre enfant ?
La jeune femme se leva à cette question. Et se penchant vers Gaston,
ah, « Sans doute, le temps des enlèvements ou des séquestrations iniques est passé, » dit-elle, les sourcils contractés et la lèvre tordue par un amer sourire.
« La civilisation et vos lois modernes répudient les moyens violents que l'on employait autrefois, avec l'assentiment ou la complicité d'une société qui bénéficiait de ces iniquités. Il vous semble, n'est-ce pas, que tous les mystères aient été dévoilés, et vous vous persuadez volontiers que la vigilance de vos austères magistrats a rendu à jamais impossible le retour des raptes odieux ou des disparitions ténébreuses. Ah, pauvre honnête homme que vous êtes, et que vous avez mal observé ce qui se passait autour de vous.
Et quoi, vous prétendez...
Et Dieu me garde, monsieur Gaston, de calomnier les saintes demeures qui m'ont accueilli avec tant de bienveillance, et où j'ai trouvé le calme et le repos transitoire dont j'avais un si grand besoin. Mais aujourd'hui, que, menacé dans mon amour maternel, je sens mon cœur s'ouvrir à toutes les appréhensions, il m'est bien permis de me rappeler ce que j'ai vu et de redouter pour mon enfant les agissements dont j'ai été témoin.
Mais que voulez-vous dire?
Il vous est arrivé quelquefois, n'est-il pas vrai, d'entendre raconter qu'une jeune fille, belle, riche, heureuse, du moins en apparence, avait tout à coup renoncé au monde et qu'elle venait de prendre le voile. Vous vous êtes dit alors, comme les autres, qu'elle avait été poussée à cette résolution excessive par quelque désespoir d'amour ou par une vocation irrésistible.
En effet,
c'est parfois vrai, et on recueille souvent dans les pieuses demeures où nous sommes de pauvres âmes blessées au combat de la vie, ou certaines natures exaltées que l'ardente séduction de la solitude, un penchant impérieux vers le mysticisme, attirent incessamment autour de ces thébaïdes, où elles croient trouver l'apaisement et des satisfactions que le monde ne peut pas leur donner.
J'ai cru qu'il en était toujours ainsi.
Mais vous vous trompiez.
Comment?
Ah, vous ne savez pas les ressources inconnues et sans nombre que la haine ou le fanatisme peut rencontrer dans ces maisons. Et combien, en regardant de près, on y compterait de victimes? Que l'égoïsme, l'ambition, la jalousie, tous les mauvais sentiments du cœur humain y ont enfermé de gré ou de force.
De force?
Oh, il faut s'entendre, et votre étonnement est naturel. On n'enlève pas une jeune fille contre son gré, au sud du monde et en pleine lumière, mais on prend la pauvre enfant, à l'âge où sa raison ne s'est pas encore éveillée, où son cœur seul palpite et commence à battre. On l'entoure de soins et d'affection, on adoucit pour elle la règle sévère du couvent, on se fait caressant et doux, et on développe insensiblement cet amour divin qui doit bientôt prendre l'âme tout entière. Quelle vie plus heureuse, d'ailleurs, pour une créature tendre et pure, que le contact du monde n'a point encore troublé. C'est un bonheur qui souvent se double de l'âpre ivresse du sacrifice. Que voulez-vous que devienne une malheureuse enfant, ignorante et crédule, sous cette pression qui s'exerce à tous les instants du jour et sous toutes les formes? Ce qu'elles deviennent toutes, résignées ou indifférentes, quand elles n'ont pas apporté au couvent le germe de quelque amour profond, auquel cas elles se révoltent ou meurent.
Vous avez vu cela?
Oui, j'ai vu cela, monsieur Gaston. Et j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi je veux arracher mon Edmée à une pareille destinée.
Mais monsieur de Beaufort aime sa fille.
Il l'aime, je le crois, je l'ai vu, repartit Fanny Stevenson. Et pourtant Edmée vous l'a peut-être dit, à vous, comme elle me l'a dit à moi. À plusieurs reprises, monsieur de Beaufort l'a préparée au sort qu'on lui destine. On lui a fait entrevoir 1000 dangers dans ce monde qu'elle ne connaissait pas. On l'a effrayée, troublée, on a exalté sa nature mélancolique et tendre, si bien qu'à de certains moments, elle a pu entrevoir le cloître comme un refuge, où elle se trouverait à l'abri de toute atteinte, cher enfant. Son père était la seule personne en qui elle eut confiance. Elle a cru à ses paroles, a été touchée de sa tristesse, et dans sa candeur, elle s'est laissée persuader.
Ainsi, vous croyez qu'elle accepterait?
Elle en souffrira profondément, mais elle se soumettra.
Ah, il ne faut pas que cela soit.
Cela ne sera pas.
Enfin, que voulez-vous?
Je veux que ma fille vive, entendez-vous? Je veux qu'elle aime et qu'elle soit aimée. Je veux qu'elle ne soit pas ensevelie vivante dans cette tombe que l'on prépare pour elle.
Que dites-vous?
Fanny Stevenson parcourait la chambre à pas heurtés avec des mouvements de fauve. Au dernier mot de Gaston, elle s'arrêta brusquement, le regard allumé d'une flamme sombre.
« Ah, vous n'avez rien vu encore, » dit-elle, « et vous ignorez tout. Mais moi, tenez, voulez-vous que je vous dise? Ce sont de ces tableaux que l'on ne peut oublier et que l'on conserve toujours devant les yeux. Ne les eût-on entrevus qu'une fois? C'est terrible, voyez-vous, et bien fait pour épouvanter l'imagination. » La veille encore, on allait et venait dans toute sa volonté libre. On pouvait sortir, on pouvait surtout ne pas rentrer. Mais une fois le jour solennel arrivé, tout est fini. Une porte de bronze se ferme sur vous pour ne plus se rouvrir, et les ténèbres du cloître vous enveloppent à jamais, comme les ténèbres de la mort même. Et ce n'est point là seulement un pur symbole, un spectacle institué pour frapper les âmes crédules et dont les esprits sceptiques peuvent se railler. Non, car moi, qui ne crois plus depuis longtemps à ces superstitions et ces mœurs d'un autre âge, je suis souvent sorti de ces solennités la pâleur au front et l'épouvante au cœur.
Vous ? Vous, Miss Fanny ?
Vous n'avez jamais assisté à de pareils spectacles, et c'est sinistre. La mort même ne provoque pas d'aussi redoutables émotions. Comme pour une cérémonie funèbre, le cœur est tendu de deuil. Les chants retentissent sous les voûtes sonores, l'orgue fait entendre des accents qui ressemblent à des sanglots. Puis, les prières murmurées à voix basse par toute la communauté. L'église s'emplit d'un âcre parfum d'encens et de cierges allumés. C'est un mélange de recueillement et d'ardente curiosité. Tout à coup, les chants éclatent avec plus d'intensité. Un mouvement se fait et la victime paraît. Pauvre chère Edmée, elle est vêtue de blanc comme ces belles jeunes filles qu'attend un époux impatient de bonheur promis. Mais c'est une statue qui marche. Son regard semble hanté par des visions de l'autre monde. Son visage a l'impassibilité du marbre. Déjà, on a porté une main sacrilège sur son opulente chevelure, qui, dénouée, l'eût naguère enveloppée tout entière. Elle ne regrette rien, pourtant. On la dirait insensible et glacée, inconsciente du sacrifice qui va s'accomplir. Alors, savez-vous ce qui se passe? Car ce n'est rien encore. On la couche sur la dalle froide, en étend sur son beau corps de vierge le drap noir rayé d'une croix blanche, et l'on commence les prières des morts et le De Profundis.
Horrible! C'est horrible!
Balbutia Gaston. N'est-ce pas? Répliqua Miss Fanny. Le monde, qui est rarement admis à ces cérémonies, n'y voit le plus souvent qu'une coutume qui diffère peu des autres solennités du culte. Mais croyez-moi, monsieur Gaston, quand je vous assure que c'est la plus redoutable épreuve par laquelle puisse passer une créature humaine.
Ah, nous saurons empêcher qu'un pareil sort soit imposé à Edmée.
Miss Fanny ne répondit pas tout de suite. Son front s'était penché de nouveau, son regard s'était voilé, elle se prit à réfléchir.
Dans la situation qui nous est faite, reprit-elle bientôt, nous ne pouvons prendre encore aucune résolution. Il faut s'assurer en premier lieu qu'Edmée n'est point rue de la Chaussée d'Antin.
Je le saurai. Puis, quand vous aurez appris qu'elle ne se trouve point auprès de sa mère, vous viendrez me le dire et nous nous concerterons.
Je vous verrai demain.
C'est cela. Profitons des derniers moments pendant lesquels je puis encore me soustraire à la surveillance dont je ne vais pas manquer d'être l'objet.
Vous croyez ?
Oh, j'en suis sûre. On devine une ennemie en moi, et Madame de Beaufort ne manquera pas de donner l'éveil. Mais soyez sans inquiétude. Quoi qu'il arrive, quelques moyens qu'il faille employer, je saurai vous faire prévenir.
Alors, à demain.
C'est cela, à demain. Il se fait tard et je crains qu'on ne remarque mon absence. Gaston serra sur ces mots les deux mains de Fanny Stevenson, et peu après, il gagnait la porte de l'enclos. Il était près de 11 heures quand il rentra chez lui. Il fut tout étonné d'y trouver Maxime, qui l'attendait en fumant un cigare. Maxime avait la physionomie exceptionnellement mobile, et il ne fallut qu'un regard à Gaston pour s'apercevoir qu'il était préoccupé. En dépit de ses propres ennuis, il en fut frappé.
« Eh, qu'as-tu donc ? » demanda-t-il avec intérêt. « Et d'où vient que je te trouve chez moi à cette heure indue ?»«
Je t'attendais, » répondit Maxime.
« Tu as à me parler ? » ?»«
C'est cela. »
« À quel propos ? » ?»«
J'ai un service à te demander. »
À moi ? Eh, que ne le disais tout de suite, de quoi s'agit-il ?
Voici, cet après-midi j'ai été appelé au ministère.
Que te voulait-on ?
On m'a donné l'ordre de rallier Brest sans tarder.
Tu vas partir ?
Demain.
Eh bien ?
Eh bien, c'est là ce qui me préoccupe. Mariette faisait une fête de me voir tous les jours, et elle va être désolée.
Mais tu reviendras bientôt.
Je ne pense pas.
Que se passe-t-il donc ?
Je l'ignore. Toutefois, je suppose que l'on a besoin de moi. et une fois à Brest, je crains que l'on m'y retienne.
Enfin, quel est le service que tu réclames de mon amitié ?
Cela t'ennuiera peut-être, mais je voudrais que tu allasses voir Mariette, au moins tous les jeudis.
N'est-ce que cela ?
Tu y consens ?
Parbleu !
À la bonne heure, tu m'écriras tous les 8 jours, et de cette façon...
Tu sauras ce que fait et ce que pense Mademoiselle Mariette du Parc.
Ah ça, est-ce que tu serais jaloux par hasard ?
Je ne crois pas.
Amoureux, alors ?
Peut-être bien.
Gaston jeta un regard d'envie à son ami.
« Ah, tu es heureux, toi » dit-il avec un soupir. « Tu peux aimer à ton aise, sans contrainte, et tu ne redoutes pas que l'on t'enlève la charmante enfant que tu as choisie pour en faire la compagne de ta vie. »
« N'en es-tu pas là toi-même ? »
« Hélas ! »
« Est-ce que Mademoiselle de Beaufort... »«
Mademoiselle de Beaufort a disparu, mon ami, et j'ignore ce que l'on veut faire d'elle. »
« Voilà qui est grave,
n'est-ce pas ?
Que vas-tu faire ?
Le sais-je. Je verrai, je chercherai, je fouillerai tous les couvents de Paris, s'il le faut. Mais à coup sûr, je ne m'arrêterai que lorsque j'aurai épuisé tous les moyens. Mais ne pensons pas à cela pour le moment. Tu vas partir, et puisque tu le désires, je verrai Mademoiselle Mariette. »
Je ne doutais pas de ton assentiment, et j'ai écrit à la supérieure pour la prévenir.
Tout est pour le mieux. D'ailleurs, ce me sera déjà un moyen de pénétrer à Sainte-Marthe, et peut-être y trouverai-je une facilité de plus pour la recherche que je vais entreprendre.
Alors, c'est convenu.
Compte sur moi.
Et les deux amis se séparèrent. Chapitre 16. Un mois s'était passé sans amener aucun changement important dans la situation de nos personnages. Maxime de Palonnier était parti pour Brest, et depuis son départ, il avait écrit plusieurs fois à Gaston pour lui renouveler les recommandations qu'il lui avait faites au sujet de Mariette et pour lui demander en post-scriptum s'il avait enfin quelques renseignements sur Edmé. Gaston avait répondu que les choses étaient toujours dans le même état, qu'il avait vu Mademoiselle Dulparc et qu'il l'avait trouvée bien triste de son absence et impatiente de son retour. Quant à Mademoiselle de Beaufort, il n'en avait rien appris. Elle avait décidément disparu. À diverses reprises, il s'était présenté à l'hôtel de la Chaussée-d'Antin et s'était heurté à un parti pris de discrétion absolue. Madame de Beaufort était restée impénétrable et il n'avait rien pu deviner. Il était évident pour lui qu'Edmé avait été conduite dans un autre couvent, et que des ordres sévères avaient été donnés pour qu'on l'empêchât de communiquer avec les personnes du dehors. Elle était séparée du monde, et le hasard seul, ou un miracle, pouvait désormais le mettre sur la trace de la pauvre recluse. Gaston venait de passer un mois terrible. Pendant les premiers jours qui avaient suivi la disparition de la chère victime, il s'était multiplié avec une sorte de fièvre. Il avait parcouru la capitale, cherchant âprement une piste, comme quelque agent de police lancé à la poursuite d'un criminel. Il avait visité toutes les communautés, inventant des prétextes, s'ingéniant à 1000 ruses qu'en d'autres circonstances sa nature droite et chevaleresque eût certainement répudiée. Mais un sentiment supérieur de justice et d'amour le soutenait. Il y avait là une iniquité monstrueuse à démasquer, et il n'avait reculé devant aucune investigation, quelque indiscrète qu'elle lui parût à lui-même. Il était d'ailleurs soutenu dans son âpre recherche par les excitations de Fanny Stevenson. Celle-ci, bien qu'elle se contînt, n'avait pas d'autre pensée que de retrouver sa fille. Seulement une crainte la retenait encore, et la garrottait dans son inaction. Elle comprenait que son ennemie, Madame de Beaufort, avait les yeux fixés sur elle, que tous ses mouvements étaient surveillés, que ses moindres paroles étaient recueillies, qu'enfin ses tristesses et ses larmes pouvaient devenir des révélations funestes dont on ne manquerait pas de se servir contre elle. Et elle se taisait, dévorant son impatience, étouffant ses révoltes, dissimulant ses colères aveugles, de peur d'exalter davantage encore l'implacable bourreau qui tenait entre ses mains le cœur de son enfant.
Oh, cette femme, cette Juliette de Beaufort, que n'eût-elle pas donné pour la tenir à son tour terrifiée et vaincue, et lui rendre toutes les tortures qu'elle lui faisait endurer. Elle ne songeait plus guère à autre chose. Ses nuits étaient hantées de fantômes. Elle ne pouvait plus que haïr. Il y avait des moments où elle oubliait presque sa fille pour ne songer qu'à sa vengeance. Aussi, c'est le souffle ardent, la mort dans l'âme, que tous les 8 jours elle voyait arriver Gaston, qui venait voir Mariette, et en même temps lui apporter le résultat de ses recherches de la semaine. Triste résultat. Rien. Toujours rien. Ni Palmer, mis en campagne, ni Bob, si intelligent et si vif, n'avaient recueilli le moindre indice. Gaston lui-même avait visité presque tous les couvents, et il en sortait comme il y était entré. Il ne pouvait pas en être autrement. Quelque prétexte qu'il prit pour s'introduire dans ces mystérieuses demeures, il rencontrait partout la même politesse banale. On l'accompagnait au parloir, on le laissait s'agenouiller à la chapelle, parfois même il était admis jusqu'auprès de la supérieure. Et c'était tout. Ce qu'on lui montrait, ce qu'il voyait, c'était les parties banales du couvent, ce que tout le monde pouvait voir comme lui, ce que l'on n'a aucun intérêt à cacher. Mais derrière ces murs épais, sous ces voûtes silencieuses, au fond de ces corridors sombres, où parfois il a surpris d'étranges murmures de voix contenues, au-delà de ces doubles grilles quadrillées, voilées de tentures noires, qu'y avait-il? Que de mystères peut-être se fussent offerts à ses regards s'il lui eût été donné d'y pénétrer. Fanny Stevenson se désolait au récit de ses recherches vaines. Elle ne pouvait croire qu'elle ne parviendrait pas un jour à découvrir la retraite où l'on avait enfermé Edmé. Mais elle se désespérait en voyant le temps s'écouler, sans amener aucun changement à la cruelle situation qui lui était faite. Une fois cependant, quelque chose de bizarre se passa, qui vint ajouter encore à cette erreur et lui donna la mesure de ce que son ennemi pouvait tenter. C'était lors de la dernière visite que Gaston avait faite à Sainte-Marthe. Il était arrivé à midi sonnant. Mariette ne se trouvait pas encore au parloir. Sœur Rosalie l'attendait, et il fut frappé de l'expression insolite qu'il remarqua sur ses traits. Elle était plus sombre encore que d'habitude. Plongée dans ses réflexions amères, elle semblait insensible à tous les bruits qu'elle entendait. Mais dès que Gaston monta les degrés de l'escalier, elle reconnut tout de suite son pas et releva brusquement la tête. « Oh, venez, venez » dit-elle d'un ton agité et nerveux. « J'avais hâte de vous voir. » « Auriez-vous quelques nouvelles ?» interrogea ardemment Gaston. « Non, je ne sais rien, je n'ai rien appris. Mais ce que j'ai à vous dire... »« Parlez !» Sœur Rosalie s'était levée. Ses mains tremblaient d'émotion et de colère. Une flamme sinistre éclairait ses yeux pleins de haine. « Qu'avez-vous donc ?» insista Gaston presque effrayé. « C'est infâme, la misérable !» balbutia Miss Fanny. « Ne vous ai-je pas dit déjà qu'elle était capable de tout ?»« Mais qu'est-il arrivé ?»« Une chose odieuse !»« Quoi ? Quoi ? Moi, je ne pensais à rien. Je ne pouvais croire à tant d'infamie. Écoutez. » Hier soir, après la prière, au moment où j'allais rentrer dans ma cellule, la mère assistante, c'est-à-dire celle qui remplace et supplée parfois la supérieure, me pria de lui accorder quelques instants d'entretien. Que voulait-elle? Un instant, j'ai cru qu'il s'agissait d'Edmé, ou que du moins j'allais obtenir de la sœur quelques renseignements dont je pourrais tirer parti. Mais elle me retint un quart d'heure au moins pour se répandre en paroles inutiles, banales, et qui, pour tout dire, n'avait aucun sens. Je ne m'en étonnais pas trop, cependant, car ici c'est un peu l'habitude, et on n'y parle le plus souvent que pour bien s'assurer que l'on n'est pas devenu tout à fait muette. Quand je la quittais, je regagnais donc ma cellule sans penser à mal, heureuse de lui échapper, heureuse surtout de rentrer dans ma solitude et dans la possession de moi-même. J'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Qu'est-ce donc ? Tout d'abord, je ne fis aucune remarque. J'étais tout entière à mon enfant. mais quand j'allais poser ma lumière au chevet de mon lit, je demeurai glacée de stupeur.
Qu'y avait-il ?
Oh, c'était presque imperceptible pour tout autre que moi. Mais du premier coup d'œil, je m'aperçus que ma cellule avait été visitée pendant mon absence et que l'on avait dû y opérer une perquisition minutieuse.
Est-ce possible ?
Je voulus douter. J'examinai avec plus d'attention et bientôt les preuves abondèrent. Sur les dalles, il y avait des traces de pas. Le petit bahut dans lequel je sers quelques modestes objets de toilette avait été bouleversé. Mon lit lui-même, défait et en désordre, attesté par l'état dans lequel je le retrouvais, qu'une main curieuse l'avait indignement fouillé.
Mais quel intérêt ?
Vous ne devinez pas ?
Je cherche.
Je n'ai pas cherché longtemps, moi, car la vérité m'a tout de suite sauté aux yeux.
Quelle est votre pensée ?
Madame de Beaufort sait que j'ai en ma possession des titres à l'aide desquels je puis à jamais détruire son bonheur et celui de sa fille, et elle a payé quelqu'un pour venir me les voler.
Et vous supposez qu'elle a trouvé ici une complicité coupable ?
Non, mais ne m'a-t-elle pas accusée de m'être emparée de l'esprit d'Edmé ? N'a-t-elle pas pu ajouter que j'avais favorisé vos entrevues au parloir avec mademoiselle de Beaufort, et notamment qu'il n'était pas impossible que je me fusse prêté à un échange de correspondance entre cet enfant et monsieur Gaston de Pradelles ?
Quelle infernale machination !
Cela une fois admis, le reste va tout seul. La supérieure ne peut croire à tant d'immoralité de ma part. Elle refuse d'accorder créance à cette accusation, et alors on lui indique le seul moyen pratique, presque honorable, de vérifier la calomnie sans que je puisse soupçonner jamais que j'en ai été l'objet. Comprenez-vous ?
Parfaitement.
Et me blâmerez-vous désormais si je prends toutes les mesures que m'impose l'intérêt de ma sécurité et celui plus sacré cent fois de ma vengeance ?
Mais ces papiers,
ils ne m'ont pas quitté et je les porte sur moi, à toute heure du jour et de nuit.
Après cette première tentative, ne craignez-vous pas que...
Je crains tout, car après avoir échoué en employant la ruse, je ne doute pas que l'on ait recours à la violence.
Et dans ce cas,
mon parti est pris. Dès ce jour, ces titres qui sont mon honneur, mieux que cela, la fortune et l'honneur de mon enfant, ces titres seront déposés en des mains qui sauront, j'en suis sûre, les conserver et les défendre.
Monsieur Gaston, j'espère que vous ne refuserez pas d'en accepter le dépôt.
Moi ? Et à qui donc voulez-vous que je les confie ? Vous êtes le plus brave et le plus loyal gentilhomme que j'ai connu. Vous aimez mon Edmé, et je suis bien certaine qu'elle vous aime. C'est en son nom, plus encore qu'au mien, que je vous supplie de m'accorder ce que je vous demande.
Vous le voulez ?
Je vous en prie.
Eh bien, soit, vous avez raison.
Et vous pouvez être assuré qu'on m'ôtera la vie plutôt que ses parchemins. À la suite de cet entretien, Gaston était resté une semaine sans revoir Fanny Stevenson, ni Mariette. Maxime lui-même n'avait pas donné signe de vie, et ni Palmer ni Bob n'avaient apporté de renseignements dignes d'être recueillis. Le jeune commandant commençait à sentir le découragement le gagner, et c'est vainement qu'il demandait à son imagination un moyen de sortir de l'impasse d'où il ne pouvait plus sortir. Un soir, il était rentré de meilleure heure que de coutume. Paris l'ennuyait, son bruit et son mouvement l'importunaient. Il avait besoin d'être seul, et passait souvent de longues heures assis auprès de son feu. Il y avait à peine quelques minutes qu'il était entré quand Bob se présenta. Gaston releva le front et remarqua que le jeune novice tenait une lettre à la main. « Une lettre »
fit-il avec un tressaillement involontaire.
« Oui, commandant, » répondit Bob.
« D'où vient-elle ? »
« De Paris. »«
De Paris ? Donne vite !»
Et il jeta un regard curieux sur la suscription. La lettre venait bien de Paris, et l'adresse avait été écrite par une main de femme.
Gaston s'empressa de déchirer l'enveloppe et courut à la signature.
Il n'y avait que quelques lignes, et elles n'étaient pas signées. Voici ce que disaient ces lignes.
Chapitre 17. Monsieur Gaston, je ne sais quand vous recevrez cette lettre, mais dès que vous l'aurez lue,
venez me voir le plus tôt possible. J'ai bien des choses à vous dire. »
Gaston examina le billet avec plus d'attention. Il était daté de 3 jours. Mais il n'eut pas une seconde de doute. Ce billet n'avait pu être écrit que par Mariette. Elle avait dû le confier à une personne qui n'avait pu le porter de suite à la poste, et c'est de là que venait le retard.
Pendant toute la soirée et la nuit qui suivit, il fut fort agité.
Quelque incident important était survenu. Mademoiselle Duparc avait dû apprendre quelque chose. Mais comment et par qui? Il ne doutait pas, d'ailleurs, qu'il ne s'agît d'Edmé. Mariette était sa meilleure amie, et elle avait été fort contristée de sa disparition. Elle avait dû mettre tout en jeu pour se renseigner sur ce qu'elle était devenue, et peut-être allait-elle lui faire connaître en quel endroit de Paris il la retrouverait. L'espoir rentra dans son âme, et c'est avec une impatience mortelle qu'il attendit le lendemain. Il crut que la nuit ne finirait pas, et que le jour ne viendrait jamais. Quand il se réveilla le lendemain, après avoir fort mal dormi, 9 heures venaient de sonner. Le soleil, un froid soleil d'hiver, blanchissait les rideaux de sa fenêtre et décrivait de pâles losanges sur le tapis de sa chambre. Il sauta bas de son lit et appela Bob. Ce dernier accourut. « Personne n'est venu me demander ?» demanda Gaston en s'habillant à la hâte. « Personne, mon commandant, » répondit le jeune novice. « Seulement le facteur a apporté une lettre. » « D'où vient-elle ? » « De Brest. »
« C'est de Maxime. Donne. »
La lettre était en effet de Maxime. Gaston la décacheta vivement et trouva sous l'enveloppe 4 pages d'une écriture serrée et menue. Il la lut avec résignation. Maxime ne pouvait rien dire du sujet qui l'occupait tout entier, mais il l'entretenait longuement de Mariette Duparc. Maxime était décidément amoureux. Eût-il voulu le nier que toute sa lettre eût protesté? Il expliquait les motifs qui l'avaient obligé à prolonger son absence et annonçait qu'il ne tarderait pas à revenir sur Paris. Le jeune lieutenant de vaisseau, quoique orphelin comme sa cousine, avait encore quelques parents, entre autres une tante fort riche qu'il avait toujours tendrement aimée, et il n'avait pas voulu prendre un parti sans la consulter et obtenir son consentement. Il s'agissait de son bonheur à lui, Maxime, et le bonheur, c'est chose grave. Il avait donc vu cette tante, elle s'était montrée favorable à ses projets, et avant peu, tout serait réglé de ce côté. Tout en faisant ses confidences à Gaston, Maxime le priait de n'en rien raconter à Mariette. Il n'en disait pas davantage, mais Gaston devina sans peine. Quand il eut achevé la lecture de cette longue lettre, il s'habilla, déjeuna sommairement et sortit. Il ne tenait pas en place. Mariette l'attendait, elle avait des choses à lui communiquer, et l'heure marchait trop lente à son gré.